Bonjour Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 22 janvier 1963, l'amitié franco-allemande est consacrée par le traité de l'Élysée. Le 14 septembre 1958, à Colombey-les-Deux-Églises, modeste village de la Haute-Marne, se déroule une rencontre historique. Charles de Gaulle, président du Conseil des ministres français, accueille dans sa résidence privée de la Boisserie Konrad Adenauer, chancelier de la République fédérale allemande. Les ministres des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville et Heinrich von Brentano, se voient quant à eux à la préfecture de Chaumont. Le tête-à-tête de Colombey-les-Deux-Églises constitue un pas essentiel vers la réconciliation franco-allemande. Konrad Adenauer, chrétien démocrate, maire de Cologne avant la Seconde Guerre mondiale, s'est opposé au nazisme. Destitué de ses fonctions municipales, il se réfugie un temps dans un monastère avant de connaître la prison brièvement, une première fois en 1943, puis plus longuement en 1944. Élu chancelier le 15 septembre 1949, il gouverne la République fédérale allemande jusqu'à sa démission le 15 octobre 1963. Au sortir de l'épreuve du nazisme, il ancre son pays dans une Europe démocratique. Dès 1951, il implique l'Allemagne fédérale au sein de la Communauté européenne du charbon et de l'acier consacrée par le traité de Paris. 6 ans plus tard, il compte parmi les signataires du traité de Rome qui fonde la Communauté économique européenne. Enfin, en 1954, il adhère à l'idée avortée de la Communauté européenne de défense avant de favoriser l'année suivante la participation de Bonn à l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Charles de Gaulle est au fait de son pouvoir. L'ancien officier, chef de la France libre, après sa traversée du désert durant laquelle il fonde le rassemblement du peuple français, est rappelé aux affaires le 1er juin 1958 dans une France troublée par le drame algérien. Ultime président du Conseil de la 4e République, il devient aux prémices de l'année 1959 le premier président de la 5e République. Au terme de leur rencontre intime et conviviale, de Gaulle et Adenauer sont convaincus de la nécessité de cheminer ensemble vers la consécration de l'amitié franco-allemande. Les rencontres se succèdent. Le 26 novembre 1958, les deux chefs de gouvernement se retrouvent dans la station thermale de Bad Kreuznach en Rhénanie-Palatinat. Le 25 mars 1959, de Gaulle affirme lors d'une conférence de presse que la réunification est le destin normal du peuple allemand. Le 1er et 2 décembre, Adenauer est reçu à Paris. Il est également invité à Rambouillet du 29 au 30 juillet 1960. De Gaulle se déplace à Bonn le 20 mai 1961. Du 20 au 23 juin, Heinrich Lübke, président de la République fédérale allemande, effectue une visite officielle en France. Les échanges s'intensifient durant l'année 1962. De Gaulle et Adenauer se voient le 15 février à Baden-Baden et le 2 juin au Palais de l'Élysée. La première semaine de juillet est consacrée à une grandiose visite officielle du chancelier allemand en France. Elle culmine le 8 juillet avec la messe célébrée en la cathédrale de Reims, tant meurtrie durant la Première Guerre mondiale. Adenauer y prononce une allocution dont il convient de retenir les phrases suivantes. « Nous sommes persuadés que les dangers provoqués par la situation de par le monde ne seront surmontés qu'au moment où les peuples libres seront unis et solidaires. » Cela dans une mesure toute particulière pour ces deux peuples qui se trouvent placés l'un près de l'autre au cœur de l'Europe. Enfin, du 4 au 9 septembre, de Gaulle va à la rencontre du peuple allemand. Au terme de son séjour, il s'adresse à la jeunesse au château de Ludwigsburg par ces mots. « L'avenir de nos deux pays, la base sur laquelle peut et doit se construire l'Union de l'Europe, le plus solide atout de la liberté du monde, c'est l'estime, la confiance, l'amitié mutuelle du peuple français et du peuple allemand. L'aboutissement de ce long et fructueux parcours survient à Paris le 22 janvier 1963. Dans le salon Murat de l'Élysée, de Gaulle et Adenauer signent le traité complété par une déclaration commune affirmant la réconciliation du peuple allemand et du peuple français. Il établit un rythme de rencontre et crée des organes communs propres à renforcer encore la coopération franco-allemande. Il est prévu que les chefs d'État et de gouvernement se voient chaque fois que cela sera nécessaire et en principe au moins deux fois par an. Les ministres des Affaires étrangères se réunissent chaque trimestre et leurs hauts fonctionnaires régulièrement à Paris et à Bonn. Il est également indiqué que les autorités responsables de la défense, de l'éducation et de la jeunesse ont des relations régulières. Deux commissions interministérielles spécialisées dans la coopération franco-allemande sont constituées. En matière de défense, les deux pays s'attacheront à rapprocher leurs doctrines. Il est aussi rappelé l'importance des échanges entre les deux armées et le travail commun sur les armements. Dans le domaine de l'éducation et de la jeunesse, il est prévu de promouvoir l'apprentissage de la langue de l'autre, l'équivalence des titres et diplômes universitaires, la coopération en matière de recherche et les échanges collectifs de jeunes. Cette dernière disposition jette les bases de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama avant de retrouver la chronique littéraire un jour. Trois livres, ce sera quatre exceptionnellement aujourd'hui. C'est Catherine Lara qui nous accompagne en chanson avec un titre de 2004, Nuit magique.
So Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour, la chronique littéraire, un jour trois livres, en fait quatre d'une même collection aujourd'hui. Je souhaite en effet vous partager mon coup de cœur pour la collection Écoutez lire proposée par les éditions Gallimard. Il s'agit d'œuvres littéraires lues le plus souvent par des acteurs. Parmi les publications récentes, quatre livres disques ont retenu mon attention. Monsieur Proust, par sa gouvernante et confidente Céleste Albaret, qui est à son service durant les 8 dernières années de sa vie. Au soir de son existence, à 82 ans, elle livre ses souvenirs du grand écrivain, le texte est lu par Lara Suyeux. D'un château l'autre de Louis-Ferdinand Céline, lu par Denis Podalydès de la Comédie française. L'auteur y relate entre autres son séjour à Sigmaringen en compagnie de Philippe Pétain et de ses ministres au terme de la Seconde Guerre mondiale. La tâche de Philippe Roth, lu par Pierre-François Garel, publié au printemps 2000 en pleine affaire Monica Lewinsky qui implique le président Bill Clinton. Ce roman participe avec Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste à la trilogie littéraire du célèbre romancier qui interroge l'identité de l'individu confronté au bouleversement de la société américaine. Enfin, L'homme révolté d'Albert Camus, lu par Stéphane Varupen de la Comédie française, cet essai édité en 1951, fit l'objet d'une vive polémique. L'auteur explique comment la révolte permet à l'homme de s'accommoder du crime. Voilà, ainsi s'achève cette émission Historama. Merci à Lucas qui l'a réalisée. Nous allons nous séparer en musique avec Catherine Lara, la roqueuse de diamants, peut-être son plus grand succès.
Sous toutes leurs facettes, taillées en rose ou en navette, j'ai comme un frisson dans le dos. C'est mon point faible, c'est mon credo.
Thank you.